Radio Prague, les informations.
Bonjour, les députés ont adopté une loi spéciale sur les mérites de Václav Havel. La faculté de droit de Pelzeň sera probablement condamnée à la fermeture. Et puis enfin, le ministère des Finances prévoit un taux de croissance économique de 0,2% en 2012. Les députés ont donc adopté ce mercredi en première lecture une loi spéciale relative aux mérites de l'ancien président Václav Havel, décédé le 18 décembre dernier. Très succinct, le texte qui va désormais être soumis à l'examen du Sénat constate simplement les mérites de Václav Havel dans la lutte pour la liberté et la démocratie. À l'exception des communistes, tous les députés présents ont voté en faveur de l'adoption de la loi. Dans l'ordre juridique tchèque, l'adoption d'une telle loi est devenue une tradition. Il s'agit de rendre hommage aux personnalités qui ont rempli les fonctions de président de la République tchèque. Les premiers et deuxièmes présidents tchécoslovaques, Tomáš Garrigue Masaryk et Edvard Beneš, ont également eu droit à cet honneur. La Commission nationale d'accréditation n'a pas prolongé son accréditation à la faculté de droit de l'Université de Bohême de l'Ouest, qui se trouve à Pelzeň. Cette accréditation arrivera à son terme à la fin de cette année académique, soit fin octobre. Cette décision signifie de facto la fermeture de l'école. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le secrétaire de la Commission, organe chargé de veiller entre autres à la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. La Commission a constaté que la situation ne s'était pas améliorée à la faculté de droit de Pelzeň, malgré plusieurs avertissements relatifs à des manquements graves dans la réalisation du programme d'études. La faculté de droit de Pelzeň est, rappelons-le, dans le viseur des autorités depuis l'automne 2009 et la révélation d'un vaste scandale de plagiat et de falsification de diplômes. Économie, comme cela était annoncé, le ministère des Finances a officiellement révisé à la baisse sa prévision de la croissance économique du pays en 2012. Le taux de croissance du PIB devrait donc s'élever à 0,2% contre 1% prévu auparavant à la suite du ralentissement économique chez ses principaux partenaires dont l'Allemagne. L'évolution de la prévision est due aux problèmes croissants au sein de la zone euro et à la dégradation des perspectives économiques de nos principaux partenaires commerciaux, a expliqué le ministère dans un communiqué. En raison du grand froid qui règne ces derniers jours en République tchèque, une tente chauffée a été dressée ce mercredi sur l'île des Roanes, dans le 8e arrondissement de Prague, pour accueillir une cinquantaine de personnes sans domicile fixe. Celles-ci sont accueillies à partir de 20h et seront priées de quitter les lieux jeudi matin. Un lit, un sac de couchage, du thé et des sanitaires sont à leur disposition. À Prague, on estime le nombre de sans-abri à plus de 3500. Mardi, les autorités ont retrouvé le corps sans vie d'une femme, vraisemblablement morte de froid. Il s'agirait de la 11e victime de ce type depuis le mois d'octobre. Plus de détails sur le sujet dans les faits événements. On passe à la culture. Ce mercredi se déroule au centre tchèque de Prague le vernissage de l'exposition « Cieux en fer poids, imagination végétale » qui présente le travail pictural de Jan Zelenka, artiste tchèque installé en France depuis 1978. C'est la première exposition de l'artiste dans son pays d'origine. Elle propose de découvrir son travail des 6 dernières années pendant lesquelles Jan Zelenka s'est exclusivement consacré au dessin et à la peinture. L'exposition s'achèvera le 25 février. Et puis on termine avec un mot de météo. Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est un temps sec, ensoleillé et très froid donc, qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Nella. La nuit, le mercure descend jusqu'à moins 20 degrés en Bohême du Nord et à moins 13 à Prague. La journée, les températures maximales varient entre moins 14 et moins 7 degrés. Aucune évolution notable n'est attendue pour la fin de cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Anna Kubishta pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. La vague de froid qui frappe l'Europe touche durement les personnes sans abri. À Prague, une femme est morte de froid mardi. Les travailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme face à la pénurie de places dans les foyers d'accueil. La collectionneuse tchèque Madame Latkova a fait l'acquisition de nombreux tableaux du plus important peintre tchèque du XXe siècle, František Kupka. Et puis, en deuxième partie du programme, on passera à la rubrique Histoire, direction Náměšť nad Oslavou aujourd'hui. Bonne écoute de ce programme. La République tchèque, tout comme une bonne partie de l'Europe centrale et de l'Est, mais également à l'Ouest, grelotte depuis le début de la semaine. La vague de froid venue de Russie s'est installée en République tchèque et les premiers à en souffrir sont les personnes sans domicile fixe. À Prague, on estime le nombre de sans-abri à plus de 3 500. Mardi, les autorités ont retrouvé le corps sans vie d'une femme vraisemblablement morte de froid. Il s'agirait là de la 11e victime de ce type depuis le mois d'octobre. Et le froid sibérien qui frappe à l'heure actuelle la République tchèque fait craindre aux travailleurs sociaux une recrudescence des décès chez cette frange fragile de la population en hiver. À Most, dans le nord de la Bohême par exemple, Libor Stiblo, le directeur d'un foyer d'hébergement, reconnaît que malgré les prévisions pessimistes pour la fin de la semaine, il ne pourra accueillir de nouveaux résidents.
Le foyer est plein presque toute l'année. Mardi, nous avons remarqué qu'il y avait plus d'intérêt pour ce moyen d'hébergement avec 5 personnes qui voulaient y séjourner. Malheureusement, le foyer ne peut les accueillir. Nous les avons redirigés vers l'asile de nuit où ils peuvent au moins dormir. Si les températures descendent encore, nous ne pourrons accueillir plus personne. Certains pourront éventuellement s'installer dans la salle fumeur. Sinon, nous les enverrons vers une autre institution. Nous ne fournissons pas nos services à d'autres personnes qu'à nos habitués.
Dans la capitale tchèque, la mairie de Prague doit installer ce mercredi une tente sur l'île des Rohans à destination des sans-abri. Ce foyer de fortune devrait pouvoir accueillir quelques 50 personnes dans le besoin. Depuis jeudi dernier, la ville a élargi l'offre des services des centres communautaires et le bateau Hermès, qui accueille les sans-abri la nuit, fonctionne désormais aussi en journée. Une société de sécurité qui avait proposé de faire construire une grande halle gonflable d'une capacité de 100 places et d'en financer le fonctionnement s'est toutefois vue signifier le désintérêt de la mairie. Dalibor Diedek, gérant de la société, s'étonne.
Nous avons demandé à la mairie de Prague comment nous pourrions aider à faire diminuer le nombre de sans-abri dans la rue, c'est-à-dire faire baisser la criminalité et aider les personnes dans le besoin. La mairie nous a renvoyés vers le centre des services sociaux de la ville. Un projet pour la construction de cette halle gonflable a été préparé. Le projet était complet avec services, surveillance, etc. Nous avons donc acheté la halle sur la base de cette commande. À notre grande surprise, nous avons appris que la ville de Prague n'en voulait pas.
Du côté de la mairie, on réplique que le projet ne tenait pas la route. Ivan Kabitsky, adjoint au maire de la capitale.
Notre conception vis-à-vis du problème des sans-abri montre que la centralisation de ces personnes pendant 3 mois en hiver est mauvaise. Les tentes, elles, sont beaucoup plus efficaces. Vous les installez à différents endroits, là où les travailleurs sociaux vous préviennent qu'il y a des besoins.
Les météorologues mettent en garde. Si le mercure est tombé à moins 13 degrés dans la nuit de mardi à mercredi, les jours qui suivent risquent d'être encore plus froids. Vendredi, ce sont près de moins 35 degrés qui sont attendus dans certaines régions montagneuses et jusqu'à moins 19 en pleine aux premières heures du jour. De même, ils appellent les automobilistes à la plus grande prudence en raison des risques de verglas sur la route. Le musée Kampa à Prague, créé par la mécène et collectionneuse Madame Latkova, vient d'enrichir sa collection de plusieurs œuvres du peintre František Kupka, un des fondateurs de l'art abstrait. Le musée a acquis une quarantaine de ses tableaux, dessins et esquisses du tournant du siècle, des œuvres créées pendant la période où ce peintre visionnaire évoluait de l'art figuratif vers l'abstraction. Cet ensemble représentatif a été réuni par la collectionneuse américaine Lily Langren-Anders. Plus de détails avec Václav Richter.
Jeune historienne de l'art, Madame Latkova a été envoyée en France par le directeur du musée d'art moderne de New York, Alfred Barr. Il lui a demandé de contacter František Kupka, qu'il considérait comme le premier peintre abstrait, et désirait connaître son cheminement vers l'abstraction. Madame Latkova a donc eu l'occasion de connaître cet artiste tchèque établi en France et de se lier d'amitié avec lui. C'était pour elle une rencontre capitale et pendant toute sa vie, elle allait collectionner les tableaux de cet artiste génial et attirer l'attention des spécialistes sur lui. Elle a réussi à composer un ensemble représentatif de plus de 200 d'œuvres de František Kupka abritées aujourd'hui dans le musée Kampa. L'acquisition de la collection de Lily Lundgren-Anders n'est donc qu'un nouveau maillon qu'elle ajoute aux activités de toute son existence.
Jednoho dne mě zavolal tato paní Lundgren.
Un jour, j'ai eu un coup de téléphone de Madame Lundgren qui m'a demandé si nous voulions acheter sa collection d'œuvres de Kupka. Je savais qu'il s'agissait d'œuvres authentiques et je voulais les acheter, mais je lui ai répondu que cela dépendait du prix. Elle m'a demandé $1 million, mais je lui ai dit que c'était trop cher pour nous. Alors nous avons négocié le prix et nous avons fini par acheter la collection pour $500 000. C'est vraiment une collection authentique parce qu'elle l'a reçue directement de Kupka.
Le commissaire du musée Kampa, Jiří Machalický, souligne que les œuvres nouvellement acquises complètent en quelque sorte la collection de tableaux et de dessins de František Kupka qui est déjà exposée au musée Kampa. Dans plusieurs cas, il s'agit d'esquisses pour quelques-unes des meilleures œuvres de František Kupka, dont par exemple les célèbres toiles intitulées « Chromatique chaude » ou « Plans verticaux ». Dans la collection de Lili Lundgren-Anders, on trouve également une peinture à l'huile, un nu féminin sur le fond d'une prairie ensoleillée, qui est le portrait d'André, la fille adoptive du peintre. Jiří Machalický explique les spécificités de ce tableau.
Ce tableau est important parce qu'il date de 1906, donc de la période où l'on voit déjà s'esquisser la création postérieure du peintre qui a débouché sur l'art abstrait. Concrètement, par exemple, sur les tableaux fugues en deux couleurs ou chromatiques chaudes qui ont été exposés ensemble par coïncidence au salon d'automne de 1912 à
Paris. La collection de Lili Lundgren-Anders ne sera présentée au public que dans quelques mois. Madame Latkova et Jiří Machalický hésitent encore entre deux possibilités.
Ces œuvres pourront être incluses dans l'exposition permanente de František Kupka, mais dans ce cas, nous serons obligés de mettre au dépôt certaines ébauches parce que l'espace d'exposition du musée Kampa est limité. Ou bien nous préparerons une exposition indépendante qui présentera au public la collection acquise dans son ensemble, y compris les documents sur ces œuvres.
Et comme si ce n'était pas assez, Madame Latkova, encouragée par ce succès, envisage d'ores et déjà de rassembler les meilleures œuvres de son peintre préféré disséminées dans les musées du monde entier et d'organiser une grande rétrospective František Kupka.
On passe tout de suite à la deuxième partie de notre programme. À la fin du XVIIIe siècle, le château Renaissance de Náměstí nad Oslavou, près de Brno, devient un centre de musique réputé et reconnu à l'échelle de l'Europe centrale. Le mérite du succès revient au propriétaire du domaine, Henri Guillaume Haugwitz, ami de compositeurs célèbres comme Antonio Salieri, dont le Requiem est joué pour la première fois au château de Náměstí. Retour sur une tradition musicale née il y a plus de 200 ans avec l'historien Marek Bush au micro de Jarka Gisubelova.
Chapitre de l'histoire.
Le château de Náměstí nad Oslavou devient un centre musical grâce à ses derniers propriétaires, la famille Haugwitz. En 1752, le domaine est racheté par Frédéric Guillaume Haugwitz, ministre et conseiller de l'impératrice Marie-Thérèse. La tradition musicale commence avec son fils Henri, raconte Marek Bush.
Elle date de 1794, lorsque le domaine devient la propriété d'Henri Guillaume Haugwitz, alors âgé de 24 ans. Pendant ses études à Vienne, il fait connaissance avec l'élite de la vie musicale viennoise, notamment avec Antonio Salieri et Christoph Willibald Gluck. Dès son arrivée au château, il réalise son rêve de créer un centre musical à
Náměstí.
Henri Guillaume Haugwitz fonde au château un orchestre qui compte une trentaine d'instrumentistes, 9 solistes et 24 choristes. Cet orchestre est remarquable tant par le nombre de musiciens que par l'étendue du répertoire et ses qualités artistiques.
Le professeur Sehnal de l'université Masaryk a étudié les documents d'archives concernant l'orchestre du comte Haugwitz. Sur la liste des personnes qui s'y sont succédées durant ces 40 ans d'existence, on trouve des cochers, des servants, des jardiniers. L'ensemble est complété par des précepteurs, des musiciens de villages voisins, ainsi que par des personnes ayant une érudition musicale approfondie. Haugwitz ne lésine pas sur les moyens versés au profit de la formation musicale des membres de l'orchestre. Il leur achète des billets au théâtre de Vienne, de Brno et de Prague et n'hésite pas à financer des cours pour perfectionner le jeu des instrumentistes. En outre, il ne se passe pas une semaine sans qu'un concert ne soit donné au château.
Des concerts sont donnés dans la chapelle du château, dans la bibliothèque et en été dans la splendide Sala Terrena. Entre 1820 et 1840, Georg Friedrich Händel est l'un des auteurs le plus souvent joué au château. Le comte Haugwitz achète au compositeur Samuel Arnold une édition complète, bien qu'inachevée, de l'œuvre de Händel et se charge lui-même de la compléter. La plupart de ses opus sont interprétés en amnischt. Haugwitz traduit des livrets de Händel, intervient dans les partitions et adapte ses œuvres conformément aux capacités et à la répartition des instruments au sein de son orchestre. Au fur et à mesure, il réunit au château une collection riche d'environ 1400 œuvres musicales. Dans les archives, on trouve des originaux de compositions d'Antonio Salieri dédiés à son ami le comte Haugwitz dans le fameux Requiem. La première présentation publique de cette œuvre a par ailleurs eu lieu dans la chapelle Saint-Venceslas du château de Náměšť.
La dédicace de 1821 par laquelle Salieri a dédié son piccolo requiem à Haugwitz a été conservée au château. La première mention d'un séjour de Salieri à Náměšť apparaît dans la biographie du compositeur et écrivain Ignaz Franz von Mosel, édité en 1827, soit deux ans après la mort de Salieri. Mosel y écrit que dans les années 1810-1823, Salieri a séjourné plusieurs fois à Náměšť. O tom, že mezi lety 1810 až 23
Salieri Náměšť několikrát navštívil. En dépit d'une différence d'âge de 20 années, des liens amicaux existent entre le compositeur italien Antonio Salieri et le propriétaire du domaine de Náměšť, Henri-Guillaume Haugwitz. En 1817, à l'occasion de son anniversaire, Salieri dédie à son ami la cantate de félicitations. Pour la comtesse Haugwitz, Salieri compose une collection intitulée « Scherzi, Harmonizzi, Vocali ». En 2010, ses œuvres ainsi que le Piccolo Requiem ont été au programme du projet Salieri à Náměšť, qui a mis à l'honneur le compositeur italien mort il y a 260 ans, observe Marek Busch.
Le public a été surpris par la beauté de la musique de Salieri. À vrai dire, beaucoup d'entre nous perçoivent Salieri d'un œil négatif. Cela date du temps de Pushkin et de Rimsky-Korsakov et cela continue avec le film Amadeus de Miloš Forman. Pour cette raison, nous avons voulu réhabiliter Salieri aux yeux de l'opinion et le présenter comme l'auteur d'une très belle musique qui mérite d'être interprétée et écoutée. Že to je člověk, který psal takovou krásnou muziku, že si zaslouží, aby byla hrána, aby se jí poslouchala.
Henri-Guillaume Haugwitz a un continuateur pour cultiver la tradition musicale à Namnicht. C'est son fils Charles-Guillaume qui enrichit la collection des œuvres musicales et qui compose une série de puces avant de dissoudre l'orchestre, comme nous l'explique Ivana Balažová, guide au château. La tradition musicale est poursuivie par son fils Charles, sauf que l'orchestre comptant au départ 60 membres a été réduit. Le public est alors moins important, il n'empêche que Johann Strauss était parmi ses amis. La famille Haugwitz reste propriétaire de Namnicht nad Oslavou jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le château est confisqué conformément au décret du président Beneš. En 2010, la résidence Renaissance est classée monument culturel national. Actuellement, on y donne des concerts qui renouent avec la riche tradition musicale née dans ces lieux il y a plus de 200 ans.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Toutes ces infos, tous ces thèmes, vous pouvez les retrouver sous forme de podcast, sous forme d'articles également en streaming sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.